BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino.
C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission absolument exceptionnelle. On va rejouer la semaine, vous dire ce qu'il faut acheter ou vendre. Le patron de la semaine, c'est une star de la com, l'ancien DG d'Havas devenu entrepreneur à succès avec l'agence Babel, Laurent Habib. Faut-il acheter des actions lors de leur introduction en bourse? Ça sera le thème de la semaine, mais pour l'heure, les meilleurs experts du monde entier de la planète sont venus pour vous, rien que pour vous. Cela fait des mois que je me bats pour l'avoir ici. Elle a travaillé pour la Banque Centrale Européenne, pour Goldman Sachs, avant de rejoindre le CEPI. C'est une économiste brillante qui, en plus, me fait penser à Anouk Aimé dans Un homme et une femme. Bonjour, Natacha Valla.
Bonjour.
C'est pas sexy, ça, Christian, de dire ça?
J'adore.
Il a créé en 2001, je crois, une magnifique société de gestion qui fait le bonheur de ses clients. Aymeric Préaubert, vous êtes le fondateur de Sycomore AM. Bonjour.
Bonjour Marc, je suis co-fondateur, j'ai pas tout fait tout seul. Hein.
Mais pourtant, vous m'avez dit de ne parler que de moi tout à l'heure.
Oui, c'est ça, bah, bravo, on s'est bien compris.
C'est devenu une des références de cette émission, c'est notre Warren Buffett à nous. Certes un peu moins riche, mais tellement plus sympathique. Christian Cambier, vous êtes président de Swiss Life Gestion Privée, bonjour.
Bonjour.
Alors ce que je vous propose, c'est un exercice tout à fait nouveau, c'est de rejouer la semaine, de passer tous les jours en revue et de vous faire réagir sur les événements. Alors, je vous propose de commencer par le lundi, parce que la semaine, ça commence par le lundi. Et le lundi, moi, ce qui m'a frappé, c'est le Nasdaq à 5000 points. Alors, je rappelle quand même pour les gens qui nous écoutent que 5000 points, c'était ce qu'on avait vécu au moment de la bulle Internet. Et pourtant, il n'y a pas eu d'excitation. On n'avait pas l'impression, comme en 2000, d'être dans une bulle. Sur la techno américaine, il y a bulle ou il n'y a pas bulle, Christian, vous qui êtes un vieux routier de la bourse?
Moi, je pense qu'il y a bulle. Elle n'est pas aussi dramatique que celle d'il y a 15 ans, mais il y a une forme de bulle sur les valeurs technologiques. Bon, on paiera la note un jour. Il n'y a pas de raison que payer Google à ce prix-là. Et je pense que Google, on en a déjà parlé, c'est quelque chose que je ne conserverai pas.
Donc vous, aujourd'hui, par exemple, avec vos méthodes d'investissement, du Google, du Apple, de l'Amazon, du Facebook, vous n'en avez pas?
Ah si, si, on en a.
Ah, vous en avez.
Mais on en a parce qu'on est obligé d'en avoir. Parce qu'on est obligé de vivre avec son temps.
Ah,
mais si, j'ai des jeunes, moi je suis vieux. Mais les jeunes, eux, ils sont obligés de vivre avec leur temps. Ils sont dans le coup, ils comprennent. Mais comme moi, je comprends pas tout, je n'adhère pas totalement au modèle.
Mais vous en avez.
Mais on en a dans les portefeuilles.
Et Brick, vous en avez dans vos portefeuilles?
Non, on n'en a pas parce que nous gérons des fonds investis en Europe.
D'accord. Mais si vous aviez des fonds investis aux États-Unis, est-ce que vous auriez des valeurs comme celle-là? Ou est-ce que ça ne correspond pas à vos critères de valorisation?
Sur les critères, ce sont des entreprises exceptionnelles. Donc, par construction, ça correspond à nos critères. Après, la valorisation, je ne suis vraiment pas expert du marché américain. Il y a effectivement des fragments, je partage l'avis de Christian, il y a une bulle sur certaines valeurs qui se valorisent en multiples de chiffre d'affaires. Après, est-ce qu'il y a une bulle sur Apple ou sur d'autres grandes valeurs de techno qui ont des multiples raisonnables, finalement? Je dirais que je ne suis pas qualifié pour répondre, mais ça ne me paraît pas aberrant sur certaines très larges.
Oui, c'est ça la grande différence avec ces 5000 d'aujourd'hui et les 5000 des années 2000. Il n'y a rien à voir.
C'est-à-dire
qu'on a l'impression que tout le monde est relativement serein. Mardi, ce que j'ai retenu, ce sont les déclarations sur la fiscalité française. Le gouvernement qui nous dit, et notamment François Hollande, notre président adoré, qui nous dit globalement qu'il ne va pas y avoir de hausse d'impôts en 2015 et en 2016, et peut-être même jusqu'aux élections. Natacha Valla, est-ce que c'est crédible?
L'environnement a un petit peu changé depuis que la Commission européenne a été plus clémente avec la France que tout le monde a d'antan en réalité. Donc on sait que la France aura plus de temps pour atteindre ses objectifs budgétaires, donc l'objectif de déficit public et les objectifs corrélaires de dette. Ça veut dire qu'on a plus de marge qu'avant la semaine dernière pour être plus clément sur les hausses d'impôts. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et ça aurait été très inquiétant d'avoir un message contraire par rapport au fait qu'on a quand même un taux de prélèvement obligatoire qui est extrêmement élevé en France et extrêmement élevé par rapport à nos partenaires
européens. On rappelle qu'il est au-dessus européens. De, je parle sous votre contrôle, au-dessus de 46%.
Ah oui, c'est ça. C'est, enfin, 46-47. Après, il y a la question de ce qu'on met dedans et ce qu'on prélève où, mais de façon
vous
générale.
Vous confirmez qu'on a un des taux de prélèvement obligatoire les plus élevés au monde.
Les plus élevés de l'OCDE, en tout cas. Donc ça, on sait que c'est un problème pour la croissance. Ce qu'il faudra regarder maintenant, si on a réellement aucune augmentation des prélèvements obligatoires, c'est ce qui se passe au niveau de la dépense publique. Et la dépense publique, ça reste quand même le dossier.
On va jamais s'y attaquer,
vraiment été ouvert. Et c'est vrai que la Commission, on sent ces derniers jours où les choses filtrent un peu plus sur les discussions européennes, que la Commission a donné et porté ce jugement clément, mais qu'il y a quand même des dents qui grincent au niveau
de
notre
part. Il y a des dents qui grincent.
Ah oui.
Parce que
oui.
Quand même, quand on entend Angela Merkel faire des déclarations sur tous les efforts qui ont été faits en France, on a l'impression qu'on a fait un boulot formidable.
Les temps sont quand même très délicats au niveau européen.
C'est
tendu pour d'autres raisons. Donc ça, c'est un calendrier qui sert un peu la France. On sait aussi qu'il y a des circonstances monétaires, on y viendra, qui sont aussi assez favorables, enfin, qui vont faciliter les choses pour les États et les finances publiques des pays membres de la zone euro. Mais de façon concrète, quand on regarde l'état des finances publiques, quand on regarde l'agenda des réformes structurelles qui nous avaient été demandées et qui ont été faites plus ou moins d'une certaine manière sur le papier avec la loi Macron, mais pour lesquelles on aurait attendu un effort beaucoup, beaucoup plus important et surtout beaucoup plus rapide, je pense qu'il y a non seulement à Bruxelles, mais pour nos partenaires européens, un certain nombre de personnalités qui sont pas tout à fait satisfaite de ce qui se passe en France. Donc on a passé un cap.
Est-ce que c'est un enfer fiscal, la France ? Messieurs, vous le vivez comment ?
Oh, je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Bien sûr qu'on a une fiscalité qui est très lourde.
Très lourde. Mais c'est
bien
objectif,
sûr qu'il y a
ça.
Des aberrations économiques comme l'ISF, comme tout un tas de choses. Bien sûr que le taux d'impôt sur les sociétés il est trop élevé. On sait tous que quand on baisse le taux, eh bien, l'assiette s'augmente et ce serait bien. Mais après,
mais
je pense qu'il faut...
C'est pas
non,
le paradis,
faut pas exagérer,
c'est
pas un enfer. Et puis, quand les entrepreneurs et quand on a des projets, on arrive quand même. Il y a des magnifiques entreprises en France, donc
c'est
soyons
sûr.
Un petit peu optimistes.
C'est sûr.
Moi, c'est pas le sujet du jour, mais je peux vous dire que la façon dont j'ai géré mon entreprise pendant 32 ans, ça n'a pas été un enfer parce que ça m'a permis, entre guillemets, pas de m'enrichir, j'aime pas le terme, mais de mettre de l'argent de côté de façon assez favorable. Car tout est fait pour un entrepreneur qui se débrouille bien pour y arriver. Je peux raconter beaucoup d'histoires là-dessus qui prouvent que c'est jouable.
On vous fera venir que pour ça. Mercredi, c'était donc le début de la chute de l'euro, le début de la continuation du mouvement. On a touché les 1,10 contre le dollar qui sera fermé contre toutes les monnaies. Vendredi, on est même descendu en dessous de 1,09. La force du dollar, Christian Cambier, et qui a un impact quand même dévastateur sur les monnaies des pays émergents. On a vu des records contre le réal brésilien, contre la livre turque, contre plein de monnaies émergentes qui gueulent en disant « la Fed s'en fout de nous, elle mène sa politique et puis nous, finalement, on en pâtit ».
Personnellement, je pense que c'est terminé. La récréation, on va siffler la fin de la récréation.
C'est-à-dire
dans la mesure où il y a deux personnes qui ne peuvent plus supporter la hausse du dollar et la chute de l'euro, ce sont les Allemands. Qui sont pas contents du tout, donc il faudra que ça soit rectifié. Et les Américains.
Mais pourquoi les Allemands sont pas contents? C'est
sont
fabuleux,
pas contents parce
on voit
que
bien
c'est,
leur balance commerciale.
Mais parce que c'est dans, contraire à leur gêne de laisser, d'avoir une monnaie qui s'affaiblit. Et je peux vous dire.
Mais c'est dans leur intérêt.
Dès que vous commencez, mais non, parce qu'ils sont toujours adaptés même à l'euro fort. Ils étaient déjà forts avec l'euro fort. Donc au contraire, ça ne va pas, ça va redonner de l'oxygène aux autres. Peut-être que ça les arrange pas tant que ça. Par contre, quand vous commencez à voyager, ce que je fais toute l'année, et que quand vous êtes à Londres et que vous payez 30% plus cher votre livre sterling en quelques... Pas 30, 20% plus cher la livre sterling en quelques semaines, ça commence à poser des problèmes. Donc, l'euro faible, il y a
Vous pensez que c'est terminé, ça ?
Moi, je pense que c'est terminé.
Natacha ?
En tout cas, les grandes tendances des politiques monétaires, des logiques de liquidité mondiale font qu'on a eu une séquence d'assouplissement monétaire et la séquence a été finalement pas si mal gérée que ça. Moi, j'appellerais même pas ça une guerre des monnaies parce qu'on a eu, finalement, on n'a pas tous voulu faire la même chose en même temps.
Non, pas du tout.
On s'est quand même bien arrangé. Ça rappelle un petit peu les petits arrangements entre amis qu'on voyait dans les années 20.
Années 80, quand on a eu les accords de Plaza, quand on a eu tout ça.
Exactement. Donc, c'est des choses qui sont quand même entre gentlemen. Je trouve que c'est plutôt assez
pour
bien
l'instant,
conduit.
Ouais.
Pour l'instant. Alors, effectivement, il faut voir l'idée qu'on a de la valeur d'équilibre de l'euro. Est-ce qu'on pense qu'on en est loin?
Parce que c'est
pas
la parité, quoi. La fameuse parité, on y va quand même. Hein. On n'est plus très loin.
C'est quand même un petit peu bas, la parité. Moi, je pense qu'effectivement.
Mais on est à 1,09. On vient de 1,30 et on était à
40.
On était c'était à 60 avant.
On est plus proche aujourd'hui de la valeur d'équilibre que ce qu'on pouvait être il y a un an de ça.
Émeric,
pendant des années, on s'est plaint de l'euro fort.
Ah oui, oui. C'est
une super nouvelle. C'est plutôt bien.
Ah, mais c'est une excellente nouvelle.
C'est le premier point. Le second point, est-ce que l'euro est faible? Il retrouve à peu près ses niveaux de la création de l'euro.
Ouais. C'était un 17 quand même.
Oui, alors effectivement, on est un petit peu en dessous, mais on n'est pas si loin.
Non.
Et à l'époque, la tendance était de dire c'est amarré au marque. Enfin, on prend le marque et le marque est une monnaie forte. Donc on n'est pas si faible que ça. Et tant mieux pour les entreprises.
Tant mieux pour la croissance, tant mieux pour les entreprises. D'ailleurs, c'est une nouvelle qui a fait plaisir, ça sera mon événement du jeudi, c'est le vôtre aussi, d'ailleurs, Natacha. Jeudi, c'était le jour de Mario Draghi. Mario Draghi, il était très, très heureux. Je l'ai jamais vu comme ça, Mario Draghi. Qu'est-ce qui lui arrive?
Il a été, lui aussi, il a ses étoiles qui s'alignent. Toutes les étoiles s'alignent pour tout le monde en ce moment. Il a eu un effet assez massif du quantitative easing avant même de le commencer, puisqu'on sait qu'il va commencer effectivement.
C'est ça, il n'a rien fait pour l'instant. C'est ça qu'il faut dire quand même.
Il n'a rien fait. On s'est dit, alors on a tous décrié le QE en disant, mon Dieu, c'est pas le moment de faire ça en Europe. Les courbes sont déjà très plates, etc. Il n'y a plus de,
il n'y a plus de titres
à acheter.
C'est
très compliqué. Ça va sans doute être assez compliqué, mais quand même, entre le moment où on a eu cette réunion du 22 janvier et aujourd'hui, le canal, ce qu'on appelle le canal du taux de change, on vient d'en parler, a quand même très bien fonctionné.
Exactement.
Donc là, il y avait des raisons
et
de se satisfaire.
Et les taux qui ont continué
des
à baisser.
Les taux qui ont continué à baisser. Les conditions de financement dans la zone euro se sont nettement améliorées. Donc ça, c'est... Et en plus de ça, il bénéficie d'un timing assez favorable, puisqu'on voit que la conjoncture, donc là, vraiment la dynamique de fonds conjoncturels macro, s'améliore. On a vu le pire, je pense, au niveau de la baisse du taux d'inflation. On sait tous qu'en 2015, on n'aura pas d'inflation, qu'on en aura un petit peu plus en 2016-2017. Donc tout ça se rapproche de l'objectif de la BCE. La macro, la croissance, ça va mieux. Le Q4...
Mais tout va bien. Il nous a annoncé des taux de croissance.
Donc voilà, il en a profité.
On se croit aux États-Unis, presque.
Ça tombait aussi au moment de l'annonce des fameuses prévisions de la BCE, qui incluait aussi l'année 2017. Donc il donnait la vision à long terme.
Donc il était joyeux.
On se retrouve en fin de période d'horizon de prévision. Avec une croissance à 2% pour la zone euro, une inflation pas si loin du 2% d'objectif de la BCE. Donc tout va bien sous le soleil. Il faudra simplement voir le petit détail de la mise en œuvre du quantitative easing entre aujourd'hui et ce
moment-là. Mais quelle importance, justement, d'un point de vue technique, ce qu'on dit, c'est que peut-être qu'il ne trouvera pas suffisamment de papier pour en acheter, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que les taux sont suffisamment bas.
Oui, voilà. Alors après, c'est une question. Il a donné quelques détails techniques qui étaient très attendus par certains opérateurs de marché. Donc qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas assez d'OAT, si on ne trouve pas assez de bonds? Il y aura des solutions, on trouvera.
Oui, enfin, c'est pas très grave.
On attend quand même.
En tout cas, il est très heureux. Et vendredi, je pense que c'est un autre pays qui est très heureux. C'était le jour des États-Unis. Je rappelle donc les chiffres de création d'emplois. 295 000 créations d'emplois. 5,5% de chômage. Ça vous fait rêver, Éric Prouvaire?
Oui, ça fait rêver parce que on est exactement dans la situation inverse. Et
on a le double, quasiment.
Oui, on a le double.
Et pour la zone euro, on est aujourd'hui autour de 11%, là, donc on est vraiment dans le double. Qu'est-ce qui fait la différence entre les États-Unis et nous, vous qui voyagez tout le temps?
Oui, mais je voyage pas beaucoup aux États-Unis, justement. Non, mais les États-Unis, on l'a dit moult fois, c'est la flexibilité, c'est l'énergie, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est toute l'invention est là-bas. Les Japonais ne font que dupliquer ce qui est créé, en fait. Aux États-Unis, il y a une créativité. Tous les cerveaux vont là-bas. Je voyais encore à midi quelqu'un qui crée des emplois à Boston, qui crée un laboratoire à Boston. Donc c'est là-bas que ça se crée. Les universités, elles sont riches, elles sont puissantes. L'endowment de Harvard, c'est 40 milliards de dollars. Bon, bah c'est une puissance qui se trouve également dans les cerveaux et dans les gens qu'ils attirent là-bas. Voilà. C'est une
question. L'événement de la semaine pour vous?
Bah, c'était pas l'événement. Oui, c'est un peu l'événement de la semaine, si, parce que le Japon, pour moi,
c'est l'hymne japonais.
On a beaucoup critiqué. Je me souviens d'Emmanuel Le Chip, qui s'était un peu moqué de moi il y a quelques semaines.
Il avait osé faire ça.
Le Japon, pardon.
Il avait osé se moquer de vous.
Oui, mais il a raison. On est entre amis. Mais le Japon est en train de nous montrer l'exemple. C'est un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte à différents niveaux. D'abord parce que l'abénomics est en train de réussir. Deuxièmement parce que les sociétés japonaises font preuve d'une réactivité partout. Je cite souvent Fujifilm. qui était le Kodak, l'équivalent de Kodak. Kodak n'existe plus. Fujifilm a inventé le vaccin contre Ebola. Bon, le GPIF est en train...
Et donc, quel est le problème avec le Japon aujourd'hui? Quand vous dites lanceur d'alerte...
C'est vous qui dites qu'il y a un problème. C'est au contraire un lanceur d'alerte pour la façon dont ils voient le monde. C'est eux qui sont au centre de l'Asie.
Donc, il faut regarder ça.
Ils sont en train de reprendre la main au Sri Lanka, en Indonésie, en Thaïlande. 50% de leur fabrication sont en Thaïlande. Donc, il faut regarder ce qui se passe au Japon. Prenez un dernier exemple, comme quoi le Japon est un modèle pour moi, c'est le GPIF, 1400 milliards de dollars de gestion du fonds, du plus gros fonds de pension de retraite du monde, et il est en train de nous montrer qu'il faut acheter des actions. Tous les jours, c'est eux qui achètent des actions japonaises, et nous devrions faire la même chose avec nos actions, c'est que nos fonds de retraite, au lieu d'investir en obligations à 0, ou à taux négatif, il ferait mieux d'acheter des actions pour payer nos retraites dans 20 ans.
Même la banque centrale japonaise achète des actions, c'est pour dire?
C'est quand même une mentalité très différente, on n'imagine pas. Ça serait possible un jour, vous qui avez travaillé à la BCE, est-ce qu'on peut imaginer un jour que la BCE dise on achète des actions?
Pour l'instant, les états d'esprit n'y sont pas encore, mais je pense que je soutiens l'idée que la BCE, au lieu d'aller acheter du titre public, elle devrait aller acheter des actions. Maintenant, ça pose une question de gestion de risque sur le bilan des banques centrales, un petit peu novateur, donc il faut s'adapter.
Aymeric, l'événement de la semaine pour vous?
L'événement, c'est... Depuis 5 ans, je pourrais même dire depuis 10 ou 15 ans, en début d'année, le consensus des analystes prévoit une croissance bénéficiaire de 15%, quoi qu'il arrive. Et cette année, consensus attend 5 en Europe, 10 en zone euro, 10%. Or, pour la première fois depuis longtemps, on a beaucoup de vent arrière, il y a les devises, il n'y a pas seulement le dollar, on a parlé du dollar, mais il y a d'autres devises qui sont appréciées versus l'euro, il y a la baisse du pétrole. Et donc, chez Sycomore, les entreprises que l'on rencontre, on pense qu'une croissance à deux chiffres, c'est tout à fait d'actualité pour l'année 2015. C'est un vrai facteur de soutien cette année.
Vous aussi, vous êtes happy alors. Vous laissez entrer le soleil dans les entreprises. Vous êtes très positif.
Soyons positifs, il y a de bonnes nouvelles
pour
une fois.
Vous êtes très positif aujourd'hui. Vous avez une...
Depuis longtemps.
Ouais. C'est vrai, depuis longtemps. Vous nous l'avez souvent dit, Christian aussi. Il y avait pas mal de gérants ici qui nous ont dit que globalement tout allait changer. Alors justement, c'est le moment de faire... Natacha, on a une petite habitude ici, c'est qu'on fait le top 5 des gérants. Les gérants viennent donner des recommandations et puis on donne le top de leurs recommandations. On note tout ce qu'ils nous disent, ou presque. Alors, je donne le top 5 des performances. On a Laurent Denise. Odo AM, 88,3%, quand même, c'est pas mal. Hein. Alors, il nous a fait des... Notamment, il gagne beaucoup d'argent sur Volkswagen. On a Louis de Montalembert, qui est deuxième avec Pléiade AM, 77,7%. Il avait proposé Maison France Confort et Gameloft, ça cartonne. Jean-Pierre Gaillard, il est énorme, Jean-Pierre Gaillard. Erasmus Conseil, 67,6%. Lui, il avait conseillé Alcatel et il avait conseillé Bolloré. Tout ça a quasiment doublé. Derrière, on a Christian Bitteau et Alain Pitou. Et pas loin derrière, on a Aymeric Préaubert, 48,5% de perf. Vous étiez acheteur d'Elior, ça a bien marché. Vous étiez acheteur de Faurecia, ça a très bien marché. On a pris quasiment 5%. Est-ce qu'on garde les deux déjà? Est-ce qu'on garde Elior et est-ce qu'on garde Faurecia?
50%.
Comment?
5% ou 50%
Faurecia.
On garde les deux.
On garde les deux, même avec 50% de performance sur Faurecia, on garde. Est-ce qu'on achète d'autres choses?
Oui, alors, les idées se raréfient, parce que bien sûr qu'il y a des facteurs positifs, bien sûr qu'on pense que les actions sont bien orientées, mais faut pas rêver, il y aura de la volatilité. Néanmoins, je pense à une idée qui s'appelle WIR, qui est un
ça
groupe anglais, ça s'écrit W-E-I-R.
D'accord, c'est coté en Angleterre donc.
Coté en Angleterre.
Oui.
Un groupe industriel fournisseur de l'industrie minière tout d'abord, l'industrie manufacturière, donc des pompes, des valves, etc. Et ce qui pêche un petit peu, en tout cas ce qui n'est pas apprécié aujourd'hui, l'industrie pétrolière.
Natacha fait semblant d'écouter, mais elle s'en fout.
Les
actions, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais elle est tellement polie qu'elle fait semblant d'être intéressée. Mais moi, je suis très intéressé.
Et cette partie alors pétrolière qui représente, bon, c'est pas ridicule, c'est 25%, va ralentir cette année, a déjà ralenti, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est sur un groupe qui a perdu 40% depuis le mois de septembre. On est sur un groupe extrêmement solide.
Non, mais vous nous avez convaincu, on l'achète.
Et on rêve ça. Et surtout,
de toute façon, c'est vous qui êtes responsable.
Il peut y avoir une OPA, pareil.
Qu'est-ce qu'on vend?
Ce que l'on vend, je vais pas répondre à la question qu'on m'a posée. Je vais pas vendre une action, je vais vendre des emprunts d'État.
Ouais, trop.
Tous les emprunts d'État.
Tous les emprunts d'État?
Ouais, presque tous.
Ah ouais, d'accord. Super, au moins c'est simple.
Et puis si on veut une action, je pense à Electa.
Coté où, ça?
C'est coté en Suède.
Ouais, non, et... ça va être trop compliqué. On vend toutes les...
On vend tous les emprunts d'État,
c'est sympa, ça, c'est détendu. Voilà. Et alors, Christian Cambier, lui, il n'est pas loin. Pareil. Il n'est pas loin, vous êtes à 22%. Vous nous aviez quand même conseillé votre fait d'armes. C'est qu'il nous avait quand même conseillé de shorter, de vendre le CAC à 4440 et de le racheter à 4180 et de se mettre long à 4180. Donc là, on a quand même une belle performance de 20% sur le CAC. Alors, est-ce que vous avez... des conseils à me donner aujourd'hui d'achat ou de vente?
Comme je vous ai dit, je me suis mis en grève.
C'est quoi ça,
professeur? Eh ben, je me suis mis en grève parce que...
En grève?
Mais oui, parce que vous mélangez les torchons et les serviettes. Vous mélangez des gérants avec des conseils, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas en même temps shorter Karma et acheter PetroChina. Je m'explique. Il faut, pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, il faut qu'ils puissent rentrer
et sortir.
C'est la
révolution sur le plateau.
Si vous avez un titre où on échange 5 titres, un papier où on échange 5 titres par jour, vous allez au corner. Donc,
je vous sors du classement.
Attendez.
Je vous explique.
C'est justement parce que je suis mal dans le classement que je ne suis pas content. Donc, si vous voulez, je prends l'exemple...
Si vous étiez à 60%, vous n'auriez pas dit ça.
Un de mes concurrents et amis qui est conseiller Air France, bon, il gagne pendant 3 jours et il est en haut du classement. Air France est au plus bas. Donc expliquez-moi pourquoi Air France était à acheter. Est-ce qu'il a dit de le sortir?
Oui, il le dit. Les gens nous disent de sortir.
Ils le disent.
Je vous assure. Il n'y a pas de back trading.
J'ai shorté Alibaba. Rappelez-vous, à 100, à l'introduction, j'ai dit Alibaba, il est 40 voleurs. J'ai dit, il faut shorter Alibaba.
Mais je l'ai noté, tout ça.
J'ai raison. Il y a les grandes tendances. Donc si vous voulez, on mélange un petit peu tout et j'ai peur que...
Donc vous faites grève. Bon, j'ai compris.
Mais je fais grève uniquement aujourd'hui, c'est promis.
Bon, ça va. Voilà. Bon, heureusement, Natacha ne fait pas grève et elle va nous amener dans un pays exotique. Où est-ce qu'on va? Enfin, c'est plus tellement exotique
d'ailleurs. Exotique, on était en Asie, on va aller en Inde.
Allez. On vous suit.
L'Inde, c'est un pays qui a quand même fait une volte-face assez considérable depuis mi-2013, où on a eu les fameux retournements sur les émergents liés au changement de politique de la Fed. À l'époque, l'Inde a souffert de flux de capitaux sortants complètement destructeurs. Et on se retrouve à l'époque aussi, il ne faut pas oublier que la roupie s'est très fortement et très rapidement dépréciée. Aujourd'hui, tout ça, c'est des facteurs qui servent le pays. On a eu des ajustements macroéconomiques favorables. Quelqu'un de très sérieux à la banque centrale, un gouvernement qui depuis septembre semble être crédible, fait des réformes, etc. Donc dans le fond, les fondements macroéconomiques sont bons. Les ajustements, et je pense que c'est le point principal, les ajustements sur les déséquilibres extérieurs, donc la balance des paiements, la balance commerciale plus les flux de
d'investissement
direct sont nettement améliorés.
Donc, et le résultat des courses, c'est qu'on se retrouve avec une bourse qui, je ne sais pas si vous la suivez, mais
la bourse a déjà fait des bonnes performances.
Qui est complètement déliante.
Je ne fais pas de conseils boursiers, mais je pense qu'il y aurait tout s'est ajusté très rapidement après mi-2013. Donc maintenant, on bénéficie de circonstances favorables.
Donc on y va.
Qui permettront sans doute d'avoir des.
Alors vous qui avez été dans la maison, qui avez inventé les briques. Il n'y a plus rien de vos briques. Hein. Le Brésil, c'est mort. Ah, la Russie, c'est mort. La Chine, c'est mort. Il ne reste plus que le I de briques.
On est marqué. Oui, en gros, c'est ça.
C'est
en tout cas,
ça.
Quand on regarde même les grandes
tendances. Oui, parce que vous parlez de l'Inde, il ne reste plus que ça.
Les grandes tendances sur les briques.
Christian, arrêtez de gueuler dans votre coin. Là.
Regarde.
Qu'est-ce qu'il est en ronchon.
La Chine n'est pas cuite, la Chine. Arrêtez. Au lieu de 7,4, elle doit faire 7.
C'est
pas la fin. Mais il n'y a plus de briques. Ça n'existe plus. Ça a explosé. C'était un bon concept marketing. Ça vous a permis de gagner de l'argent.
Ça a bien marché ou ça a duré?
Ça a bien marché.
Il y avait une certaine justification. Maintenant, on passe à la génération suivante,
oui,
qu'on appelle les 10-15 prochains émergents qui viennent après ces grands pays et qui vont être les producteurs en matière en tout cas industrielle de l'économie mondiale, qui s'incluent dans la chaîne de valeur globale et qui finalement seront les porteurs des performances demain.
Je vous remercie beaucoup d'être venu, c'était très sympa, même si vous avez fait grève. Nous, on se retrouve tout de suite pour le patron de Babel, Laurent Habib.
BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino.
Et les entrepreneurs, on les aime, les patrons aussi. Aujourd'hui, je reçois une des stars de la com, l'ancien DG d'Havas et l'entrepreneur fondateur de l'agence Babel, Laurent Habib. Merci d'être venu. Si je vous mets cette musique-là, qu'est-ce que vous me dites?
Ah oui, alors ça, c'était une musique qu'on a choisie pour une convention de Corian. Et c'est pour raconter que les personnes âgées ont profondément changé, parce qu'en 1960, c'est ça ce qu'elles écoutaient comme musique.
Et ça a bien marché, j'imagine.
Ça a bien marché, oui. On a un peu motivé tout le monde.
Alors, vous avez été professeur de droit avant d'entrer dans la com. Alors, quel est l'événement dramatique de votre vie qui a provoqué ce dérapage? Qu'est-ce qui a merdé, en gros, quoi?
En fait, je me suis retrouvé dans un bureau avec un paquet de copies. Quand vous êtes prof en fac, vous voyez les étudiants 6 heures par semaine. Et puis le reste du temps, vous êtes tout seul. Et quand vous êtes en fac à Paris, vous n'avez pas de bureau en fac. Vous êtes chez vous tout le temps.
Vous voyez un bureau, en fait, c'est pour ça que vous avez
changé. Je voulais voir des gens. Et en fait, je me suis dit, il faut que je vive, quoi. C'est pas possible. Je peux pas rester. Alors en plus, ce que j'écrivais était assez compliqué. Je pense qu'il y avait à peu près 6 à 7 lecteurs. Donc, c'est pas non plus très motivant.
Alors, vous avez été patron de RSCG, C et O.
Oui.
C'est quoi cette maladie qu'ont les agences de pub de mettre des lettres, le RCGVZ?
C'est très simple, c'est les fondateurs. C'est les fondateurs, parce qu'on considère que c'est des entreprises qui sont tellement...
Oui, mais on n'a plus le nom des fondateurs.
Alors, tout le monde l'a oublié. Bah oui. Et en fait, voilà, mais on garde les lettres. Alors, moi, quand j'ai créé Babel, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, oui.
Alors, on va en parler. C'était la première agence corporate en France, c'est ça?
Oui.
Et après, vous avez été DG d'Avas. Alors ça, c'était en 2009, hein, c'est ça?
Ouais.
Ça, c'était la grande époque des agences de com et des grandes agences de com, non?
Oui, la grande époque, je sais pas si c'est pas avant moi, hein, quand même. Moi,
c'était quand même la belle époque.
Non, mais il y a une belle époque avant 90, avant la loi Sapin, où c'était où ça rigolait bien. Et
la loi Sapin a cassé le métier.
La loi Sapin, elle a vraiment limité les rémunérations.
Vous pouvez rappeler pour les gens qui connaissent.
Bien
pas.
Sûr, la loi Sapin, c'est ce qui a obligé à être transparent sur la marge que faisaient les différents intervenants dans l'achat d'espace. Donc, quand on achète 100 à BFM, eh bien, on doit dire au client qu'on a acheté 100 à BFM. Mais on n'a pas le droit de acheter à BFM en fait 60 et de se faire 40 de marge.
D'accord.
Et donc
ça a changé complètement le modèle.
Ça a complètement nettoyé le marché. Et du coup, les marges ont dû être officiel et clair, et le marché a plus jamais été aussi rigolo qu'il a été. Mais moi, je ne l'ai pas connu à cette époque.
C'était quand même des bonnes années pour le business.
Avant 90.
Non, les années où vous avez été.
Non, moi, quand j'ai commencé.
C'était déjà dur.
C'était déjà bien, mais c'était déjà dur. Et ça a durci tout le temps parce que après, il y a eu le digital, la montée du digital, et puis la crise de 2008. Et puis.
Donc, ça a été un cauchemar.
Et puis, la descente que connaissent toutes les boîtes de services sur une exigence de plus de valeur apportée avec moins d'argent, moins de capacité des annonceurs à payer l'intelligence. Et du coup, un vrai combat entre les agences et les annonceurs pour arriver à garder une valeur ajoutée en agence.
En 2012, vous quittez Havas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes frité avec Bolloré?
Non, mais j'étais un peu...
Il vous a énervé?
J'étais un peu au bout du chemin et j'étais trop jeune pour avoir fini. Et du coup, je me suis dit, et si je devenais entrepreneur? Et
en fait, qu'est-ce qui vous a pris, justement?
Quand l'idée d'être
entrepreneur...
Parce
que nous, vous savez qu'ici, on adore les entrepreneurs sur BFM. Ouais. C'est notre passion, mais qu'est-ce qui a fait que vous, alors que vous étiez quand même dans des grandes maisons, vous décidez du jour au lendemain de devenir entrepreneur?
L'idée de me dire, si je me lance pas un nouveau défi, qu'est-ce que je vais faire de ces 15 années? J'avais écrit 2 bouquins, j'avais pas mal de responsabilités dans le groupe, j'étais très bien traité et plutôt écouté. Mais je me suis dit, être entrepreneur, c'est une façon de me redonner une nouvelle vie et de redécouvrir l'inconnu, le risque, aussi un peu le métier. Parce que quand vous êtes patron d'un grand groupe, vous faites beaucoup de politique.
C'est ça, vous êtes déconnecté finalement.
Vous gérez beaucoup les égos, les questions de personnes, les problèmes de...
C'est ce que disent les gens des grands groupes.
De position.
Ça, c'est fini quand on
est
entrepreneur.
Mais alors, en fait, ce qui est extraordinaire quand vous êtes entrepreneur, c'est que vous avez plus de soucis, mais moins de toxines.
C'est cet art faire, vous
le savez. De soucis. Moins de toxines, c'est une combinaison très particulière. Allez-y. Vous n'avez plus du tout les toxines du stress de ne pas aimer les gens ou de vous dire qu'est-ce qui m'énerve et je ne vais pas réussir à passer mon dossier, etc. Mais alors les soucis, ce n'est pas compliqué. Vous montez dans le train des soucis, je crois, à vie, je ne sais pas.
Si c'était à refaire, vous le feriez ou pas?
Ouais, c'est extraordinaire.
Alors qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, ça m'intéresse toujours, les premiers mois de votre aventure d'entrepreneur. C'est-à-dire que vous quittez un endroit où vous avez une secrétaire, une assistante, vous passez un coup de fil, on peut tout vous apporter. Le lendemain, vous ouvrez la lumière. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là et pendant les premières semaines?
Ouais, alors Marc, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que moi je suis parti en essayant de faire tout de suite une très grosse agence. Donc je suis pas parti dans un bureau
tout seul. Parce que vous êtes mégalo.
parce que je suis pas mégalo, mais parce que j'avais envie de faire tout de suite quelque chose qui marque les esprits et marque le marché. Donc du coup, je me suis pas retrouvé tout seul dans un avec une fille qui en même temps et l'assistante, la commerciale et la personne qui on était tout de suite pas mal de gens et du coup, j'ai plutôt été saisi par le stress de mon ambition, c'est-à-dire je me suis dit et si j'étais fou et j'ai passé des journées et des journées à me dire ça ne va pas se faire. Est-ce que j'avais imaginé que ce montage que j'avais imaginé ne va pas se faire.
Alors on va voir que ça s'est fait, puisqu'on va en parler tout de suite. Vous avez appelé sinon vous n'auriez pas été là. Vous avez appelé votre agence Babel. Alors est-ce que vous aussi vous en aviez marre de ces initiales?
Alors j'en avais marre des initiales
et puis LH ça aurait été un peu vous avez fait Laurent Habib, il y avait personne d'autre donc
non c'est pas hyper intéressant non mais surtout il y a quelque chose de très fort dans le fait de créer une marque. Moi mon métier c'est d'aider les gens à créer des marques et je voulais montrer qu'on pouvait créer une nouvelle marque.
C'est une partie de votre métier ou c'est votre métier? Quand vous dites c'est intéressant ce que vous dites mon métier c'est d'aider les gens à créer des marques. C'est ça votre métier?
Mon métier c'est d'aider les gens à comprendre ce que marque vaut. C'est-à-dire tout ce que la marque peut faire pour l'entreprise comme agrégateur des actifs immatériels. C'est-à-dire qu'en fait, mon idée, c'est que au fond, un chef d'entreprise, il doit prendre la conscience de la dimension immatérielle de son entreprise, la valoriser, la protéger, la faire vivre. Et en fait, c'est ça qui va faire tenir son entreprise 10 fois plus que ses brevets qui seront copiés, que ses méthodes qui seront obsolètes assez rapidement ou que sa structure qui va être rapidement empesée. Et donc, l'immatériel, c'est la force de notre économie moderne. Et prendre conscience de ça à travers la réflexion sur la marque, c'est
donc vous avez mené la réflexion pour votre propre marque et vous êtes dit c'est pas possible, je peux pas l'appeler LH, je sais pas quoi.
Je me suis dit il faut créer une vraie marque dans l'univers de la com dont les gens se souviendront mais aussi qui incarne un état d'esprit, un savoir-faire, une façon d'être, une valeur ajoutée.
Mais ça doit être dur de se faire sa propre marque, non? C'est très compliqué parce que vous passez votre temps à en proposer à d'autres, mais quand c'est pour soi-même...
Mais quand vous avez donné 20 ans des conseils à des patrons, le jour où vous retrouvez en face de votre truc, vous dites « Ok ». Alors, c'est pas compliqué. Une des règles que moi, je m'étais appliquée en tant que conseil, c'est laisser les gens être un peu fous. Et du coup, je me suis laissé moi-même être un peu fou.
Donc Babel,
170 personnes au lancement.
Alors justement, les chiffres aujourd'hui, c'est quoi
Babel? On est 80 personnes. J'ai embauché 75 personnes en 2 ans.
Ah ouais, quand même.
J'ai donc acheté 2 sociétés.
Vous venez d'en acheter une.
Et je viens d'en racheter une troisième.
Qui fait quoi?
Qui fait de l'événement, qui s'appelle... de l'événement et du capital humain, du management du capital humain, qui s'appelle Human Life, et que j'intègre, et qui va prendre le nom de Babel, car la marque la plus forte, c'est Babel.
Déjà?
Oui. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est tous ensemble d'offrir une offre d'agence intégrée à très haute valeur ajoutée à tous nos clients.
Donc en termes de personnes, vous nous avez dit,
180,
en termes de chiffre d'affaires,
on va faire 18 millions de marge brute en 2015.
C'est bien.
C'est pas mal. Alors vous savez qu'on parle pas dans notre métier de chiffre d'affaires. La marge brute,
c'est l'équivalent d'une marge brute dans une entreprise.
C'est ça.
Vous êtes rentable?
J'ai été très rentable la première année, un peu moins la seconde, et l'année prochaine, en 2015, normalement, je devrais revenir à un niveau de rentabilité qui est encore un peu en dessous des standards des marchés boursiers.
Mais c'est normal puisque vous êtes en croissance.
C'est normal et c'est aussi parce que je m'autorise de pas privilégier la profitabilité parce que je privilégie plutôt la croissance et le fait de structurer mes métiers.
Vous allez encore grandir?
Oui.
Comment?
De toutes les forces.
Embauche, aussi racheter des boîtes.
Alors, embauche indispensable parce que de toute façon, aujourd'hui, il faut courir vers la concrétisation des nouveaux talents. Donc, il faut aller chercher des gens qui ouvrent le space, qui développent les compétences. Donc là, on a une douzaine d'embauches en cours, notamment dans le digital. Des acquisitions, si possible petites, parce que j'ai très peu d'argent et très peu de cash, et que je cherche à bien réfléchir à l'intégration. Il faut faire attention, on est des métiers d'hommes, et donc comme on n'achète rien d'autre que des hommes, si vous amenez des gens qui sont pas heureux dans la structure, en fait, vous avez rien acheté, vous avez perdu votre argent.
Donc, alors, justement, vous en parliez, l'univers de la com totalement bouleversé par le numérique.
Complètement.
Comment vous faites pour surmonter un truc pareil? Parce que quand on voit, quand le numérique s'attaque à la musique, on voit ce que ça a fait comme désastre. Au livre, c'est pareil. Et puis vous avez un métier qui est particulièrement touché par le numérique, dans lequel le numérique a pris une place prépondérante. Comment, aujourd'hui, vous adressez ce problème?
En fait, le numérique, c'est une sorte de descente vers le bas, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que c'est une descente vers une création de valeur qui est de plus en plus regardée à la loupe par des automates qui regardent si vous avez cliqué sur les bannières bleues plutôt que sur les bannières rouges, si vous avez optimisé votre fenêtre de conversion en ayant telle image plutôt que telle autre, et si vous avez donc en fait on a la mathématique qui est en train
vous êtes remplacé par des algorithmes.
Ah, on peut être remplacé par des algorithmes sur l'achat d'espace, sur l'optimisation des plans d'action, sur les meilleures décisions en termes de création, de positionnement de produits, de pricing.
C'est une énorme part de votre business déjà.
C'était là où était le business il y a quelques années. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que avec la révolution digitale, le rôle de la communication devient fondamental. Mais vous le voyez, tous ceux d'entre ceux qui vous écoutent, qui sont entrepreneurs, savent que aujourd'hui, un patron, c'est le gestionnaire d'une image autant que le gestionnaire des hommes.
C'est ça.
Et dans l'image qu'il essaye de construire, évidemment, il a envie d'avoir un partenaire à haute valeur ajoutée. Alors, tout notre problème, c'est de pas se faire absorber par le bas, dans lequel le numérique a déjà gagné la bataille.
Et de donc vous dites ça, c'est plus la peine de se battre. Mais ça, à la limite, faut l'utiliser.
Non, en fait, ce qu'il faut, c'est des gens qui sauront tirer la quintessence de l'information.
Parce qu'aujourd'hui, ça représente combien de personnes le digital chez vous?
Ah bah le digital chez nous, nous on va intervenir beaucoup plus sur la stratégie du digital. On va beaucoup plus intervenir par exemple sur l'écosystème digital d'une marque. Quelle est la part qu'on accepte d'avoir en earned media? Quelle est la part qu'on va avoir dans des
plutôt que d'avoir une équipe digitale.
Oui, mais en revanche, toute la partie aval, aujourd'hui, c'est très difficile pour les agences de com, surtout comme la mienne, pour rentrer dedans. Aujourd'hui, je pense que on va de plus en plus vers une logique où l'entreprise va être maîtresse de ses clients et elle va vouloir avoir la data de ses clients et elle les laissera pas à une agence. Donc ça a l'air de rien, mais ça veut dire que grosso modo, l'agence, dans l'intermédiation entre la marque et ses consommateurs, elle interviendra plus comme un gestionnaire de tuyaux et un gestionnaire de support que dans la gestion même de la data et la connaissance du client. En fait, la connaissance du client va être le grand sujet des marchés demain.
Et là, les algorithmes.
Là, à mon avis, les algorithmes seront plus forts. Alors, nous, on va intervenir sur le management du sens, sur le management de la mise en scène de la marque, sur l'expérience sensible de la marque.
Sur l'immatériel.
Sur l'immatériel. Et là, je suis désolé, mais malheureusement pour les consultants de McKinsey et de Bain, eh bien, il y a encore des gens qui savent faire ce métier beaucoup mieux qu'eux et qui sont des communicants.
Ils apprécieront. Après les élections départementales, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes appelé comme spin doctor de 3 candidats potentiels à la prochaine présidentielle. Vous êtes prêts? On écoute le premier qui a besoin de vos services.
Nous avons à prendre des décisions pour que nous puissions conforter la situation d'Areva, permettre une meilleure coopération entre Areva et EDF. Et j'ai demandé aux dirigeants des deux entreprises de nous présenter un rapprochement qui pourrait être confirmé dans quelques mois.
Alors, vous le prenez, lui, déjà comme client ou pas?
Non.
Et même s'il vous demande amicalement de lui donner un conseil pour sa com'?
Et s'il me demande un conseil, je lui dirais qu'il faut revenir aux fondamentaux de la présidentialité, c'est-à-dire qu'il faut retrouver de la valeur à la parole. Pour retrouver de la valeur à la parole, il faut associer la parole et les actes, et il faut arrêter d'être dans un système où on subit en permanence l'actualité et où les paroles se succèdent aux paroles avec l'impression que les paroles n'ont aucune prise sur le réel. Et toute la difficulté, c'est que si vous voulez autre chose que Le Pen dans le système, il faut que vous ayez quelqu'un dont vous vous dites qu'il va pouvoir agir sur et transformer le réel. Aujourd'hui, l'idée que Hollande pourrait transformer le réel...
Vous le prenez pas, lui. Hein. Trop tard, quoi. Alors j'ai une autre personne qui nous a contacté pour vous. On écoute le deuxième candidat.
Quand vous avez la fièvre, c'est pas parce que vous cassez le thermomètre que vous avez arrangé la maladie. Donc le problème, c'est pas du tout cette dame. Le problème, c'est pourquoi la ruralité se sent-elle abandonnée? Pourquoi l'agriculture est-elle inquiète? Pourquoi des gens qui ont toujours vécu à la ferme se disent « mes enfants pourront pas le faire ». C'est ça la question qui est posée.
L'image du thermomètre, c'était bon ça en com? Lui, vous le prenez ou pas?
Non, moi là je pars.
Ah bon, ouais.
Non, je pars.
Lui aussi, c'est trop tard.
À la maison, là.
C'est trop tard. En termes de com, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil, lui?
Lui, il a montré qu'il avait. Lui,
mais on parle de com, là.
J'ai bien compris.
Qu'est-ce que vous lui dites?
Il a montré que utiliser la com en se laissant aller à la société de communication dans tous ses défauts, c'est-à-dire la gestion du temps court, le fait de répondre à tout, le fait de préférer la parole aux actes, le fait d'anticiper les décisions, le fait d'être toute la journée sur les médias, en fait, ça use, ça détruit, ça fragilise. C'est-à-dire qu'en fait, la com tue la com quand on en fait trop. Et en fait, je pense qu'il y a une responsabilité dans l'idée globale qu'ont les Français à l'égard des décideurs chez Sarkozy et dans le mandat Sarkozy. C'est-à-dire que Sarkozy a beaucoup fragilisé les autorités. Et j'explique ça dans mon livre qui s'appelle « La communication transformative », c'est que je crois que, en fait, le problème du langage, c'est comme le problème de l'autorité parentale. C'est que si à un moment donné, on a l'impression qu'en fait, la parole est en fait la mise en scène de l'impuissance, eh bien, à un moment donné,
pas
c'est
mal, ça,
terrorisant.
La parole, la mise en scène de l'impuissance. Alors, j'ai une autre
terrible.
Candidate
mais
qui a besoin de
vous. Imaginez tous les gens qui nous écoutent, si vous prenez la parole devant quelqu'un, vous lui dites, oui, demain il fera beau, demain il pleut. Si tu continues, je vais faire quelque chose. On dirait un sketch de Gad Elmaleh, vous savez. C'est pas possible. Et là, ce qui est terrible, c'est l'impression que quand ça s'est cassé, c'est cassé.
Alors, on a une autre candidate qui a besoin de vous, on l'écoute.
Sondage après sondage, confirmant les résultats des élections partielles, le Front National monte, 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 n'en finit plus de monter. Ces tripatouillages pourraient d'ailleurs se retourner contre leurs auteurs. Vous savez, on ne joue pas avec le suffrage universel. Comme dit le proverbe chinois, quand on crache en l'air, il y a quand même parfois des chances pour que ça vous retombe sur la figure.
Bon, ben là, je vous demande pas ce que vous pensez d'elle, mais sa com, elle est bonne quand même.
En fait, la com, c'est pas un métier très difficile. Et en
fait, est-ce qu'elle fait une bonne com?
Mais je vous réponds, c'est pas un métier difficile. Ce qui est difficile, c'est d'associer la communication à l'action. Donc pour l'instant, sa com, elle est parfaite, et tant qu'elle sera aux marges de l'action, ben, sa communication sera absolument irréprochable.
Mais là, ce son but aujourd'hui, c'est d'arriver au pouvoir. Donc sa com, c'est de lui permettre d'arriver au pouvoir.
Je suis pas Madame Irma, et donc je sais pas si elle y arrivera. Pour l'instant, l'exercice de com est parfait, mais il a la virginité.
Oui.
De l'absence d'action. Et donc, du coup, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, si je vous dis que maintenant, si vous me faites confiance, je vais redresser l'emploi, vous vous dites peut-être qu'il faut l'écouter. Donc, tout ce que je vais dire à partir de là va vous intéresser, parce que je n'ai jamais pris le pouvoir. Et donc, en fait, ce qui est terrible dans l'exercice avec Le Pen, c'est que Le Pen est dans une situation où elle peut se permettre de dire, en gros, ce que les Français pensent. Alors, il faut bien que vous compreniez aujourd'hui. Tout le monde est capable de dire ce que les Français pensent. Vous les mettez, d'abord moi je peux vous le dire, parce que j'ai assisté à tellement de groupes qualitatifs dans ma vie de publicitaire, je peux vous dire ce qu'ils vont vous dire sur le chauffage, le prix de l'électricité, la voiture, la ville, le pain,
Ils ont une idée surtout.
Ils ont une idée on
et
la connaît.
Et on la connaît. Et,
si mon programme consiste à vous dire grosso modo ce que vous avez envie d'entendre, je monterai dans les sondages.
Alors, juste un petit mot sur votre métier. Quand il y a eu la fusion Omnicom-Publicis, est-ce que vous saviez que ça allait être voué à l'échec?
Non.
Vous pensez que ça allait réussir?
Non, je ne savais pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de... D'abord, c'était très gros, très difficile. C'est très difficile de rapprocher des grandes entreprises dans l'univers de la com, parce que en réalité, la communication, ce sont des micro-entreprises les unes à côté des autres. Donc, de toute façon, c'est difficile. Et il ne faut pas vous leurrer, lorsque vous voyez des grands groupes de communication, c'est en fait des réseaux qui eux-mêmes sont des mini-agences les unes à côté des autres.
Oui, c'est pas l'image du grand groupe qu'on peut avoir. C'est pas Apple.
Exactement. C'est pas une industrialisation unique, des process uniques, une culture unique. C'est pas vrai, ça. Donc, ça, c'est un premier facteur de difficulté, c'est que faire très gros dans la com, c'est difficile. Et le deuxième facteur qui est difficile, c'est être respecté par les Américains quand on est Français.
Le client que vous n'avez pas et que vous rêveriez d'avoir. C'est peut-être que vous avez tous les clients que
non,
vous voulez avoir.
Non, pas du tout, pas du tout. Non,
vous
j'en
voulez
ai
plus de nouveaux clients.
Non, au contraire. Non, écoutez, j'aimerais bien un très grand assureur. Je dirais AXA pour les accompagner dans la transformation digitale de l'assurance.
Vous avez un message, là, vous pouvez leur parler à la caméra. Voilà, si AXA vous écoute.
Bonjour, j'aimerais beaucoup travailler pour vous, la communication d'AXA ou éventuellement le président d'AXA. Voilà.
Est-ce que vous avez un cadeau à me faire? Parce que moi, on me fait des cadeaux quand on vient ici.
Oui, j'ai appris ça, alors je suis un peu embêté. J'avais envie, pour que vous vous en souveniez, souveniez tout le temps de vous donner La force de l'immatériel, qui est le petit ouvrage que j'avais écrit quand j'étais président de l'Observatoire de l'immatériel.
Vous en avez vendu ou pas?
J'en ai vendu pas mal.
Ouais.
Ça vaut 6 euros, donc c'est pas très difficile
ouais, ça
à vendre.
Et puis c'est, bon, on lit rapidement quand même.
Mais le prix est en rapport avec le nombre de pages. En fait, c'était une conférence que j'avais donnée sur l'importance de l'immatériel. Et l'important, c'est de donner envie à des gens comme vous de vous intéresser à l'immatériel plutôt qu'au
monétaire.
Alors,
je vais le lire.
Voilà.
Bon, ça c'est très sérieux, vous n'avez pas un truc un
justement
peu plus fun?
Je vous ai amené une petite imprimante en 3D d'une tour de Babel.
Mais c'est trop mignon.
Alors,
ça, c'est en 3D ça?
Oui, oui.
Oh, c'est trop mignon.
Oui. Voilà.
Donc, ça, alors, c'est quoi? Est-ce que c'est
le... tout simple, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les innovations, les mutations. On est très intéressé par les mutations que vont apporter dans l'univers de la production
c'est
industrielle,
mignon,
la 3D.
Truc.
Et du coup, on leur a demandé de nous faire une petite tour. Voilà. Et celle-là, vous remarquez qu'elle ne s'écroule pas, elle tient bon.
J'espère bien, je vous le dirai dans quelques mois. Laurent Habib, vous êtes le patron de l'agence Babel, ça cartonne.
Ça
va continuer pour vous. Et nous, on se retrouve tout de suite pour parler d'introduction en bourse, peut-être un jour Babel.
Peut-être, je ne sais pas.
BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino.
Faut-il acheter des actions lors d'une introduction en bourse? C'est un sujet important, surtout qu'il y a beaucoup de particuliers qui participent aux introductions en bourse. Et j'ai demandé donc à 4 spécialistes, alors des vrais spécialistes, hein, ils sont très forts, ils ont bossé leur sujet, ils ont travaillé pendant toute la semaine pour répondre à vos questions. Et on commence avec Karine Beigbeder, vous êtes co-gérante de la financière Barbevel. Ça veut dire quoi co-gérante?
Co-gérant, c'est-à-dire que je gère le fonds Pluvalka Initiative, qui est un fonds small cap, avec Sébastien Lalvé, qui est le gérant de la financière.
Mais en fait, c'est vous qui décidez tout ce que vous m'avez dit. Ouais. Vous m'avez dit Lalvé, il ne fait rien.
Non, rien.
Arnaud Bives.
Bonjour Marc.
Votre grand-mère va bien?
Elle va très bien.
Vous êtes journaliste financier chez Boursier.com.
C'est ça, oui.
Christophe Delisle, merci d'être venu. Vous êtes président.
Bonjour.
C'est beau d'être président.
Il paraît.
C'est pour ça que vous avez une cravate.
Exactement.
Parce que tous les présidents ont une cravate. Vous êtes président d'Actifin, c'est quoi
Actifin? Une agence de communication financière.
Donc vous travaillez pour qui?
Pour les sociétés qui sont cotées en bourse.
Très bien.
Et pour les introductions en bourse.
Je suis Julia Bridger, vous êtes donc associé chez Euroland Corporate. Merci d'être venu. 2014, donc très très bonne année ou pas sur les introductions en bourse en France, Julia Bridger?
Oui, ça a été un excellent cru en 2014.
Ah, voilà une bonne nouvelle.
Ouais, c'était une excellente nouvelle. Alors la particularité, c'est qu'elle s'est faite uniquement sur 6 mois. De janvier à juillet, il y a eu énormément d'opérations, plus de 36 en France. Ça a permis de lever près de 4 milliards d'euros. Mais dès le mois
de
juillet,
vous avez bien bossé, hein.
Ouais, vous l'avez dit. Dès le mois de juillet, le marché s'est complètement refermé. On a eu des reports d'introduction. Les cours et les marchés ont été complètement baissiers et donc ça n'a pas incité les investisseurs à aller sur des nouveaux dossiers. Donc SPI avait reporté et même annulé son opération. Mais le premier semestre, c'est 36 opérations, près de 4 milliards d'euros levés. Et surtout, les gros dossiers qu'on attendait sont enfin sortis, comme Coface, Euronext ou alors Worldline.
C'était pareil en Europe et dans le monde?
Oui, tout à fait. Aux États-Unis, il y a eu une euphorie, notamment sur le secteur des biotechnologies et des technos. On a eu l'introduction en bourse d'Alibaba, qui était un record boursier, et de The Lending Club.
Donc, super bonne année 2014.
Très, très bonne année pour les émetteurs.
Bon, boursier.com.
Oui, Marc.
Comment ont performé les introductions depuis 2014? Est-ce que ça a été...
Ça a été assez difficile. Au premier semestre, comme le disait Julia, on a eu des titres qui s'affichaient dans le rouge parfois dès le premier jour de cotation et qui ont continué à baisser dans les semaines et les mois qui suivaient. La raison, c'est que souvent, les prix qui étaient décidés de ces introductions-là ont été faits souvent en haute fourchette.
C'est toujours un peu le problème, hein. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, c'est-à-dire, et ça on va demander aux gérants, aux spécialistes, nous expliquer comment on choisit et comment vous allez faire pour dire à des gens qui vous lisent, on y va ou on n'y va pas, parce qu'on a tendance, quand c'est une bonne période, à essayer d'introduire sa société à un cours qui est peut-être un peu trop élevé, non, c'est
prix,
ça?
Le prix reste évidemment l'élément fondamental pour décider d'y aller ou pas, de souscrire ou pas. Effectivement, au premier semestre 2014, à mon sens, il y a eu quelques excès. Et derrière, le marché, qui a toujours raison, a corrigé inévitablement ce que disait Julia.
Donc des performances qui n'ont pas été exceptionnelles?
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
Comment a débuté 2015 pour les introductions, Christophe Delisle?
Il y a eu 7 opérations depuis le début de l'année en introduction en bourse à Paris.
C'est bien ça? C'est un bon début?
Sur 2 mois, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Surtout qu'elles sont situées sur une période d'une quinzaine de jours, ce qui est assez intéressant. Il y a eu des succès, j'allais dire. Toutes les opérations sont passées, mais plus ou moins avec succès. il y a eu quand même des opérations qui sont rentrées en bas de fourchette.
Et comment ça s'annonce pour l'année? Enfin, vous êtes ça s'annonce en première loge pour savoir s'il y a des infos.
Ça s'annonce plutôt bien.
Il y en a d'autres qui se préparent.
Il semblerait, enfin, selon les sources qu'on peut avoir, notamment d'Euronext, on pourrait avoir une trentaine d'opérations d'ici la fin du semestre.
Comment on explique, Karine Beigbeder, cet engouement pour les introductions?
Les flux ont été très porteurs, les marchés ont été porteurs, donc les sociétés qui avaient...
La hausse globale du marché a poussé,
les entreprises à s'introduire. Et il y en avait certaines, comme disait Julia, qui avaient reporté leur introduction en bourse au deuxième semestre, et du coup qui ont essayé à nouveau sur le début de l'année pour lever de l'argent à des valorisations qui étaient assez attractives.
Et alors qui participe à ces introductions? C'est quoi? C'est les pros, c'est les particuliers?
On a à la fois les investisseurs institutionnels, mais les actionnaires individuels. Et c'est vrai qu'ils ont été très présents. Ils ont investi près de 300 millions d'euros sur les introductions de 2014. Donc c'est très significatif. Et ce qui est assez intéressant...
C'est nouveau ça, ou ça a toujours été le cas?
C'est plus ou moins nouveau. Le montant est plus ou moins nouveau. On voyait moins cet engouement dans les années précédentes, mais il n'y avait pas un marché aussi très favorable les années précédentes. Donc
on a à la fois les particuliers...
Les institutionnels qui étaient très présents au début, mais
vous appelez les institutionnels, c'est
les
gérants,
les fonds small ou large cap qui peuvent investir. Mais ce qui est intéressant, c'est que les particuliers ont permis de sauver certaines opérations, notamment des opérations de PME et d'ETI, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fonds institutionnels qui allaient, et grâce à la participation des particuliers, ces opérations ont pu être réalisées vraiment sans elles.
Il y a eu un impact derrière le fait qu'il y ait beaucoup de particuliers sur le cours derrière.
S'il y a eu des impacts, on constate statistiquement que souvent lorsqu'il y a les particuliers qui ont souscrit, les cours s'affaissent un peu moins, brutalement en tout cas, que lorsqu'il y a un retournement. Ouais.
Quels sont les secteurs dans lesquels il y a eu le plus d'intro?
La vague biotech et medtech continue, hein, qui est...
Ça a été la grosse vague, hein.
Ça a été lancé il y a plusieurs années, ouais.
Donc ça, biotech.
Le changement, c'est que, il y a quelques années, je dirais qu'on avait le choix entre biotech et biotech.
Ouais.
Ensuite, on a eu quelques medtech. Et là, en janvier et février dernier, sur les 8 opérations, on a un acteur qui est dans le domaine du pétrole. Ecoslobs, on a un acteur dans les domaines des objets.
Donc ça s'est un peu ouvert, ça s'est diversifié. On n'est plus que dans la biotech,
Sur les 7 opérations, il y en a que 2.
Vous confirmez ce qu'a dit Arnaud, il a dit n'importe quoi.
Il y en a que 2 qui étaient dans la biotech, medtech, depuis le début de l'année. Les autres sont dans d'autres secteurs. Et notamment, il y a Elis également, c'est ce qu'on va en parler, qui est dans
blanchisserie industrielle.
Alors on va passer aux choses sérieuses. Karine, vous êtes prête?
Oui.
Comment un gérant décide de participer ou pas à une introduction? C'est ce qui intéresse les gens qui nous regardent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait? On vient vous présenter la société. Qu'est-ce qui fait que vous décidiez d'y aller ou pas?
Écoutez, c'est pas très différent d'un investissement traditionnel. On regarde évidemment le marché, on regarde l'environnement concurrentiel, on regarde la rupture technologique que la société qui s'introduit peut apporter, l'innovation produit. Et après, on fait un travail de valorisation qui est assez important, parce qu'à la différence d'une société qui est cotée depuis longtemps.
C'est ça. C'est qu'on a moins d'informations.
On
n'a pas le recul.
On n'a pas le track record, on n'a pas l'historique. Donc il y a deux éléments qui sont un petit peu différents. C'est que la confiance qu'on peut avoir dans le management est absolument clé, puisqu'on n'a pas, on a pas d'historique. Alors c'est toujours clé pour les small caps, la relation avec le management est clé, mais sur les introductions en bourse encore plus. On applique une prime de risque qui sera sans doute supérieure sur une introduction en bourse, parce qu'on ne peut pas faire entièrement confiance à un discours qui aura été un peu formaté. Et on fait un travail de valorisation.
Quand vous dites un discours formaté, c'est par les agences de com comme Christophe.
Oui,
ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il leur apprend à mentir.
Il leur apprend à raconter une histoire. Pas
d'accord.
À mentir, mais à raconter
une belle histoire.
Donc vous, vous dites, attention, il est formaté, donc j'écoute pas ce qu'il me dit.
Et voilà, fait notre propre analyse, on fait nos prévisions, et le travail de valorisation est fondamental, parce qu'on a, là encore, on n'a pas d'historique de ratio de valorisation, donc on sait pas exactement combien vaut la société, il n'y a pas toujours des sociétés comparables qui sont cotées, donc il faut faire un vrai travail de valorisation encore plus poussée que pour l'investissement traditionnel.
Ça, c'est les professionnels. Arnaud, pour des particuliers, comment ils peuvent faire? Comment vous faites, vous?
Je reprends un petit peu ce que, malgré tout, de dire Karine. C'est-à-dire que les éléments d'analyse classiques qui s'appliquent à des titres déjà cotés sont valables pour une introduction. Le prix, l'environnement concurrentiel, sur quel marché
Mais
société.
Ça, le particulier, il ne peut pas le faire.
Les journalistes ou les analystes le font pour lui. J'ajouterai peut-être un élément à ce qu'a dit Karine, notamment concernant les PME et les ETI. Il y a l'aspect, le facteur humain qui joue, c'est-à-dire le chef d'entreprise, sa personnalité, son charisme, la façon dont il a mené sa barque avant, jusqu'à l'introduction.
Ce qu'il a fait avant.
Ça, c'est un élément.
Mais ce que vous dites aux particuliers, c'est que globalement, ils doivent regarder le travail de professionnels, parce qu'ils ne vont pas, eux, rencontrer le dirigeant. Ou alors ils vont à la présentation éventuellement de la société pour son introduction. Vous conseillez d'y aller?
Alors je ne sais pas si c'est
particulier,
mais on y va pour eux.
D'accord. Donc c'est ça, ou le travail de professionnel, ou le travail de journaliste spécialisé. Alors on a... Oui, allez-y.
Non, mais grâce à Internet, aujourd'hui, le particulier, il a accès à l'entreprise. Il a accès aux informations de l'entreprise.
Mais est-ce qu'il a vraiment accès aux infos? Oui.
Il a exactement accès aux infos de la même façon que n'importe quel professionnel. Il peut demander de l'information, en plus s'il le veut, on est obligé de lui transmettre l'ensemble de l'information qui est distribuée au marché. Donc oui, et en plus, il a aussi un accès par la vidéo.
Donc
par...
vous lui dites, allez sur le site, allez regarder tout ce qu'il
évidemment,
fait. C'est ce que vous faites, vous. Mais on sait très bien que les vidéos, vous les préparez, donc le gars, il est coaché.
Oui, enfin l'important dans une intro, une bonne réussite d'introduction en bourse, c'est quand le chef d'entreprise, il voit plus loin que l'introduction en bourse, il va vivre en bourse. Donc effectivement, il ne va pas raconter nécessairement une mauvaise histoire pour son introduction
c'est
en bourse,
que
puisqu'il va vivre avec son histoire longtemps. Donc oui et non, enfin, je pense que l'actionnaire individuel, il doit regarder, il doit écouter. Les discours qui sont présentés par l'entreprise sont absolument validés par tout le monde et l'AMF, hein, faut quand même le savoir. C'est quand même une vraie garantie.
Donc c'est une garantie, donc regardez ce qu'il dit.
Je rajouterais, c'est vrai que le particulier n'a pas le choix sur le prix qui sera choisi, puisque l'investisseur peut positionner son prix dans la fourchette, pas les particuliers. Il y a une actualité quand même qui a été décidée par l'AMF, c'est que le particulier peut révoquer son ordre jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière journée de l'offre, ce qui n'était pas possible avant. Donc ça, c'est quand même
Qu'est-ce qui fait qu'il y a des introductions qui font des 50 et des 60 ou 80% des performances spectaculaires le premier jour?
C'est vrai que souvent, lorsque la société communique sur son succès, elle communique sur les taux de sursouscription. Donc lorsqu'on voit qu'une opération a été sursouscrite 10 fois par des institutionnels, par des particuliers, on s'imagine que les gérants vont compléter leur ligne parce qu'ils n'ont pas été assez servis. De même pour les particuliers qui ne vont pas rester avec 10 ou 20 titres. Et du coup, ça peut créer un emballement. Après, il y a eu des emballements 2015 et ça a été plutôt porté par le secteur des medtech.
Si je peux me permettre, ça a été le cas en début d'année où on a eu certaines opérations assez restreintes en termes de taille d'offres. Et les gérants, les particuliers se retrouvaient avec des lignes assez faibles et obligés de compléter dès le premier jour de cotation.
Karine, comment on sort pour un particulier d'une valeur achetée lors d'une introduction?
C'est toujours la même problématique de valorisation. Donc on se fixe des cours objectifs qu'on peut être amené à réévaluer en fonction des performances de l'entreprise. Donc si la société va revoir à la hausse ses prévisions, afficher des résultats meilleurs que prévu, on va réviser à la hausse notre cours objectif. Mais on vend une fois qu'on a atteint ce cours objectif. Et il faut surtout éviter de se laisser porter par des flux quand il n'y a pas vraiment de rationnel derrière. Donc la valorisation est clé.
Très bien, on se retrouve tout de suite pour répondre à vos questions.
BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino.
Et on se retrouve avec nos spécialistes des actions et en particulier de l'introduction en bourse. Et on va répondre à quelques questions que vous nous avez posées. Alors, première question, c'est pour vous Karine, est-ce que vous êtes prête?
Oui.
Je ne comprends rien au biotech, comment choisir celle dans laquelle je dois investir? C'est dur, ça.
Ouais. Les biotech, il faut toujours avoir le même raisonnement. C'est-à-dire, regarder à la fois la rupture technologique que la biotech va apporter, qui est clé. Il faut que on vérifie à ce que la biotech soit sur un marché sur lequel il y a un besoin qui ne soit pas encore adressé. Je vous donne un exemple. On avait investi,
par exemple,
dans DBV Technologies. DBV Technologies, c'est une biotech qui fait des patchs pour guérir l'allergie à la cacahuète. C'est un très gros marché, notamment aux États-Unis, sur lequel il n'y a pas de médicaments qui soient...
C'est un gros truc, ça, d'allergie à la cacahuète.
Mais si, aux États-Unis, c'est un enjeu de santé publique. Et il n'y a pas de médicaments qui soient réellement efficaces. Donc, ils avaient un médicament qui était en phase 2 et qui a eu des résultats assez positifs. Et donc, ça, c'est la troisième problématique. Il faut bien suivre les résultats des essais cliniques. Et donc, il y a des gaps de valorisation à ce moment-là. C'est-à-dire, quand le résultat est positif, la société va se revaloriser d'un coup. Et quand le résultat est négatif, évidemment, elle va perdre beaucoup de valeur.
De près.
Et puis, il faut avoir aussi des spécialistes qui connaissent bien le secteur.
Vous voulez plus arrêter?
Comment?
Vous voulez continuer?
Oui, si vous voulez.
J'ai acheté du Viadeo à l'introduction. Le cours perd 70%. C'était sur un de vos conseils, Arnaud? Alors, fais quoi maintenant?
Justement, non. Cet auditeur ou téléspectateur n'a pas suivi.
N'a pas lu boursier.com.
Effectivement, nous conseillons de ne pas souscrire, de ne pas participer à l'opération
Viadeo.
Alors le marché est assez pessimiste, voire négatif sur les perspectives de Viadeo. Moi, je vous conseille de saisir le moindre rebond pour solder sa
vie. Bon, Audit, en fait, bien fait pour sa gueule parce qu'il n'a pas lu votre papier.
Je n'y ai pas jusque-là.
Dois-je investir dans un PEA-PME alors que mon PEA n'est pas au plafond? C'est pour vous, Christophe.
Non, si mon PEA n'est pas au plafond, je peux...
Aucun intérêt.
Voilà, si, parce que si j'investis dans des PME, principalement, je peux avoir... Enfin, en fait, le PEA-PME, c'est un plus par rapport au PEA.
Donc s'il est au plafond, plein, d'accord. J'ai du mal à trouver des informations sur les petites sociétés qui viennent de s'introduire. Qu'ont-elles comme obligation de communiquer après leur introduction? C'est pour vous, Julia.
Bon, en fonction des marchés, les obligations sont différentes. Sur le marché libre, il n'y a quasiment pas d'obligation, donc c'est très difficile de trouver de l'information. Mais sur Alternex et Euronex, les informations minimum à publier sont les comptes semestriels, les comptes annuels et toute information qui peut avoir une influence sur le cours de bourse, donc comme des opérations de croissance externe ou des opérations de levée de fonds.
Ouais, bien bossé. C'est vraiment la Pollard. Julia Bridger, c'est la Pollard. C'est à l'école, c'est qui récite le.
Première de classe.
Est-ce que vous voulez aller au tableau et puis
c'est
tout à fait. Est-ce que quelqu'un a pris sa leçon? Elle lève la main, elle dit moi, monsieur, c'est ça. Ça devait être horrible d'être dans votre classe. Pouvez-vous me conseiller, allez, ça c'est un petit tuyau. Trois petites valeurs à acheter, Karine. Vous avez trois petits tuyaux à nous donner.
Imagis, je dirais, qui d'ailleurs était une introduction en bourse de 2013, qui a fait un très, très beau travail depuis, puisqu'ils sont introduits en bourse. Ils faisaient 50 millions d'euros chiffre d'affaires aujourd'hui. En chiffre d'affaires pro forma, ils en font 150.
Bon, Imagis. On y va. Deuxième.
Solution 30 qui installe chez les particuliers et chez les entreprises toutes les nouvelles technologies. Ils sont sur la fibre optique, ils sont sur les compteurs intelligents EDF. Ils ont trois drivers de croissance qui sont ces deux-là, plus la croissance externe. Très belle
société. On y va. Et la troisième pour lui?
Delta Plus, très, très peu cher, très faiblement valorisé. Ils font de la distribution d'équipements pour la personne, des casques, des masques. C'est une société qui est très peu chère.
Quand une société prend plus de 30% le jour de l'introduction, faut-il prendre son profit? Quelle est la règle? C'est pour vous, Arnaud Bives.
Moi, je suis partisan, effectivement, de concrétiser une plus-value lorsqu'on voit un titre qui prend plus 30, plus 40, plus 50% dans les premières heures de cotation. Je suis assez partisan de prendre son bénéfice. Alors, parmi les investisseurs particuliers, il y a des gens qui souscrivent à une introduction parce qu'ils ils veulent partager le développement de l'entreprise à moyen, long terme.
Ça existe, ça?
Oui.
On dit ça sur papier. La réalité, c'est ça?
Absolument.
Il y en a.
Alors, conseiller à ces gens-là de céder leur titre dès les premières heures, c'est un petit peu difficile, mais on peut malgré tout leur conseiller de céder une partie de leur ligne, la moitié, et de conserver l'autre moitié pour du moyen terme.
Est-ce que vous avez remarqué sur ces sociétés, vous expliquiez tout à l'heure que quand il y avait plus de particuliers, le cours baissait moins. Comment on explique ça? C'est parce qu'ils suivent au moins la valeur?
C'est parce qu'ils sont certainement plus long-termistes et que des fonds, lorsqu'ils ont des rachats, peut-être que vous avez déjà connu ça, ils ont l'obligation de sortir pour rendre l'argent. Et donc, ils vendent sur le marché directement un particulier à moins ces contraintes-là. Et les lignes sont plus petites aussi, donc ils restent plus longtemps.
Et du coup, Christophe Delisle, est-ce que vous dites, par exemple, à vos clients, puisque vous avez fait pas mal d'introductions en 2014, vous en faites d'autres en 2015, est-ce que vous leur dites il faut privilégier quand même les particuliers, ou est-ce que... Parce qu'on voit des opérations, c'est très variable, hein. On a des opérations où il y a 10% de particuliers, des opérations où il y a 50%.
Le fait d'avoir des particuliers, ça a une garantie d'une meilleure liquidité une fois que la société est cotée. Donc évidemment, on a plutôt tendance à dire ayez le maximum d'actionnaires demain, ce qui vous garantira une meilleure liquidité et aussi un meilleur...
Donc vous poussez
tenue de marché.
Vous poussez les gens qui s'introduisent
Non, il y a une stratégie d'actionnariat qui est définie avec l'entreprise et les banques, et on essaie de s'inscrire dans une stratégie intelligente. Parfois, il est intéressant d'aller chercher des fonds américains, puis parfois des particuliers en France. Mais le fait d'avoir des particuliers, c'est souvent intéressant, même en termes de presse, puisque les journalistes s'intéressent aux valeurs qui ont de la liquidité et qui sont suivies.
Alors, justement, une question pour vous. Comment me faire entendre si je suis actionnaire d'une petite société cotée? C'est ça que disent aussi les petits actionnaires. C'est globalement, tout le monde s'en fout. On va parler à des gérants, mais on va pas parler.
Vous avez des coordonnées sur l'ensemble des communiqués, l'ensemble de la communication qui est faite d'une société cotée. Et vous pouvez très bien téléphoner, écrire, et on vous répond.
Mais est-ce qu'on est entendu, Arnaud Bives? Est-ce qu'on est entendu?
Ça dépend, évidemment. Il faut faire des entreprises. Quelles sont celles qui sont plus aptes à communiquer métier avec les petits porteurs. Justement, une entreprise qui s'introduit doit se mettre dans l'esprit que justement elle va avoir cet effort-là à faire. Ça, c'est important.
On essaie de lui apprendre à communiquer convenablement.
Parce que vous les suivez, vous, après.
Bien sûr, ben évidemment. Le cœur de métier, c'est une fois qu'elles sont cotées. Hein, c'est pas la cotation n'est qu'un point de départ. Et bien évidemment, on fait en sorte qu'ils s'adressent à l'ensemble de leurs actionnaires et de la même façon, dans les mêmes avec la même qualité.
Est-ce que vous êtes satisfaite, vous, en tant que gérant professionnel, de la qualité de l'information des petites sociétés?
Oui, en général. Oui, en général.
Est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre les petites sociétés et
Il y a un fossé dans le suivi, ouais. C'est-à-dire qu'elles sont très peu suivies par des analystes, donc on est obligé de faire un travail assez poussé en termes de prévision. Mais en revanche, les petites sociétés donnent de l'info. On a accès au management, sans doute beaucoup plus facilement que pour les grosses sociétés. Donc ça, c'est quand même un plus.
Donc là, vous pouvez vous rendre compte plus facilement si un patron ment ou pas. Ouais. Dans une grosse boîte, c'est compliqué quand même.
Dans une grosse boîte, c'est plus dilué, plus compliqué.
C'est plus dilué. Donc là, vous sentez tout de suite.
On a vraiment accès très facilement.
Donc vous savez si la situation est bonne, mauvaise, vous le sentez quand vous voyez le dirigeant d'une entreprise, c'est plus facile.
Ouais.
Et vous avez eu des rendez-vous, vous êtes sorti en vous disant, je le sens pas, il se passe quelque chose, on vend nos actions.
Oui, bien sûr.
Oui, ça arrive.
Ouais.
Je pense même que les petites sociétés font un effort beaucoup plus important en termes de communication, puisqu'elles sont en concurrence avec beaucoup plus d'autres sociétés, et elles doivent expliquer ce qu'elles font, expliquer leur stratégie, expliquer leurs résultats, beaucoup plus. Donc finalement, vous avez trouvé sur des grandes entreprises, bah, on vous donne les comptes, quelques indications, puis en gros, faites votre boulot. Là, c'est pas du tout le cas. L'entreprise, elle prémâche, pour que finalement, elles soient entendues parmi un marché extrêmement...
Qui est plus vaste. Il y a toujours une question sur la liquidité. Est-ce que les petites valeurs sont liquides et est-ce qu'elles sont plus liquides, par exemple, sur Euronext que sur le marché des valeurs un peu de croissance qui est Alternext?
C'est compliqué de comparer en fonction de marché parce que finalement, le système de cotation est le même.
Mais est-ce qu'un particulier déjà qui achète des petites valeurs, il peut en sortir, il a suffisamment de liquidité?
Ça dépend vraiment et il y a plusieurs critères à regarder. C'est pas tant de marché parce que les modes de cotation sont exactement les mêmes que ce soit sur Euronext ou Alternext. Il faut regarder la taille. Bon, la capitalisation boursière est un élément important et son flottant, c'est-à-dire le nombre de titres émis dans le marché. Plus le flottant est important, plus la liquidité est importante évidemment et surtout la composition du flottant. On le disait, plus il y a d'actionnaires individuels, plus souvent la liquidité est importante.
Pour garder la liquidité de près, j'imagine, en tant que gérant.
Oui, de très près.
Mais sur les petites valeurs, c'est...
C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Il faut faire très attention à ne pas se retrouver scotché par une ligne. Alors, en tant que gérant, on a accès parfois à des blocs, en plus des particuliers, qui augmentent la liquidité du titre.
Ce qu'il faut savoir,
Christophe, c'est le mot de la fin.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une introduction en bourse, la demande d'un particulier, c'est autour de 2500 euros. Hein.
Oui,
c'est à peu près ça.
Donc,
oui, donc
la liquidité pour un particulier, c'est pas un sujet.
Très relative.
Je pense donc ce qu'a dit Julia, c'est n'importe quoi en fait.
Pas vraiment.
Non, mais si, c'est ce que vous dites, mais c'est pas grave. Hein.
C'est pas contradictoire.
Disons que c'est faux, ça va. C'est à peu près 2500 euros. Et sur les dernières intros, ça tombe à 1200, puisqu'elles sont, pour celles qui ont été duées, voilà, c'est 1200 euros de ligne.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous d'être venus. C'était très clair, j'ai tout compris. On se retrouve malheureusement pas tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine.